à votre service. Toutes vos questions santé 03 83 36 20 20. C'est Martine qui nous a appelé ce matin. Bonjour Martine.
Oui, bonjour messieurs, dames, bonjour docteur.
Bonjour Martine.
Martine de Thaon-les-Vosges.
Oui, merci. Donc je ne sais pas si ma question est farfelue, mais je voudrais simplement poser la question au docteur pour savoir ce qu'il pense de la fibromyalgie. Je souffre depuis, on va dire, une quinzaine d'années, 15-18 ans peut-être, de maux divers. Mais bon, ça va en s'amplifiant et puis les douleurs bougent. Bon, le matin c'est le dos, après c'est les épaules, après c'est les jambes, après puis ça remonte et puis bon, enfin voilà quoi. Donc elles sont diverses et variées, on va dire comme ça, mais elles s'amplifient quand même de jour en jour. Je suis actuellement en traitement chez un kiné. Qui me masse, il est hyper gentil, hyper tout ce qu'on veut, mais disons que lui pense que peut-être ce serait une fibromyalgie qui débute, voilà. Donc j'aimerais avoir le ressenti de votre médecin, voilà.
Alors déjà Martine, vous avez quel âge ?
Oh là, j'ai 72 ans.
Oh, vous êtes toute jeune.
Oh, la voix est très très
mais
jeune.
Oui, vous êtes une gamine encore.
Oui,
et ça a commencé brutalement cette histoire ou alors c'est venu tout progressivement ?
Non, c'est venu progressivement. Et je sais qu'à l'époque, il y a 15-18 ans, j'étais allée voir mon médecin traitant de l'époque et je lui avais dit, j'ai l'impression d'être passée sous un bus. Hein. J'avais mal partout. Alors bon, il s'était un peu fichu de moi parce qu'à l'époque, on prenait pas ça très au sérieux, quoi, disons. Hein. Maintenant, je suppose que on commence à prendre conscience que ben, ça existe vraiment et puis que les malades ne s'abulent pas. Quoi, si
alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais simplement une question à vous poser. C'est le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous avez un dérouillage ? C'est-à-dire, quand vous levez, vous avez l'impression d'être un robot et qu'il vous faut un quart d'heure, 20 minutes pour dérouiller chaque articulation ?
C'est un peu ça, mais disons que je souffre aussi la nuit. La nuit, ouais. J'ai des douleurs dans le dos, dans les épaules.
Et est-ce que vous avez, quand vous êtes en activité, vous avez moins mal ?
Peut-être un peu
parce
moins.
Que parce que, si vous voulez, la fibromyalgie, bon, alors aujourd'hui, c'est une entité qui commence à être parfaitement définie.
C'est quoi, déjà ?
Alors, si vous voulez, pendant des années, la fibromyalgie, c'était un peu le... Vous savez, quand on joue au jeu qui est qui ?
Oui.
Est-ce qu'il a une moustache, machin ? Ben, quand on a tout enlevé, qu'est-ce qui est resté ? La fibromyalgie.
D'accord.
Le problème, c'est que c'était un grand sac dans lequel on mettait un peu tout et n'importe quoi.
Oui.
Et moi, ce qui me dérange, parce que bon, j'ai fait une très grosse formation de médecine interne, un peu à la Dr House, c'est que beaucoup de fibromyalgiques, tout compte fait, ce sont des gens qui ont d'authentiques maladies auto-immunes.
D'accord.
C'est-à-dire soit des polyarthrites, des spondylarthrites, des lupus, enfin des maladies.
Donc il y a une raison plus précise.
Ah ouais, mais il faut aller chercher aussi un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut descendre au niveau des bilans sanguins, dans certaines strates bon, où les médecins généralistes ne vont pas trop parce qu'ils ne connaissent pas. Hein. Je veux dire que c'est un problème quand même qui est très pointu. C'est ce qu'on appelle l'auto-immunité. Chercher les auto-anticorps, aller un petit peu creuser, gratter et surtout prolonger les interrogatoires de manière très approfondie pour chercher des tas de petits signes qui peuvent paraître anodins. Ça peut être des petites plaques de psoriasis, ça peut être des aphtes, ça peut être des douleurs un peu articulaires, mais surtout de repos. Par exemple, vous savez, vous restez dans votre voiture pendant une heure, vous sortez de votre voiture, vous avez l'impression d'être complètement robotisé, raide comme la justice.
Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est me rapprocher du centre de la douleur.
Ouais, ben voilà. Ça, c'est pas... Alors attendez, bon, je vais pas me faire des copains, parce que c'est pas forcément une bonne idée. Je pense surtout qu'il faut vous rapprocher vers un interniste. C'est-à-dire un médecin qui est spécialisé dans la médecine interne. C'est-à-dire la médecine interne, c'est la médecine à la Dr House.
C'est une médecine... Elle prend rendez-vous à l'hôpital ?
Alors, il y a des services maintenant qui sont très... Il faut demander à son généraliste de s'en occuper. Au CHU de Nancy, il y a un très bon service. Il y en a un très très bon. Alors bon, je vais un peu prêcher pour les voisins à l'hôpital Schumann, à Metz. Il y a un très bon service de médecine interne. Bon, c'est clair que les rendez-vous ne sont pas toujours très faciles à avoir. Mais après, quand vous tombez entre les mains d'un interniste, il va vous faire un shampoing, mais un shampoing grand luxe.
J'ai envie de dire, si Martine attend depuis 18 ans, elle peut attendre 4 mois pour avoir de vraies réponses.
Et après, si vous voulez, quand on aura tout éliminé exactement comme le jeu qui est, il va rester la fibromyalgie. Et là, la fibromyalgie, ben, malheureusement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que vous n'allez pas en mourir, mais ça va sacrément vous enquiquiner la vie, quoi.
C'est déjà ça. Oui.
Parce voilà. que les prises en charge, alors il y a la balnéothérapie, vous êtes dans les Vosges, donc il y a plein de choses chouettes à faire dans les Vosges oui. pour la balnéothérapie, la kiné, bien entendu, et puis on arrive après dans des classes de traitement qui sont quand même un peu costauds, ce qu'on appelle des neuroleptiques, hein. C'est la prégabaline. Enfin, le Lyrica, dont on parle beaucoup, parce qu'on appelle ça la drogue du pauvre.
D'accord.
Mais qui aussi a quand même des indications très précises et qui peut très bien marcher sur la fibromyalgie. Et bon, c'est toujours pareil, c'est des médicaments qui ont des effets indésirables, qui sont un peu lourds.
Voilà, Martine. Bon, prenez rendez-vous Robert Schumann à Metz, on a dit, ou CHU de Nancy, ma chère Martine.
D'accord, eh bien c'est gentil à vous, je vous remercie tout plein.
On vous embrasse fort. On vous embrasse fort. 03 83 36 20 20. À votre service sur France Bleu, à votre service dans le quotidien, ça concerne forcément la santé. Ce matin avec nous, Jean-Jacques Herbstein, médecin généraliste qui répond à toutes vos questions santé. Maryse est avec nous. Bonjour Maryse.
Bonjour messieurs dames.
Maryse de Plombières-les-Bains, mais je vous laisse avec Jean-Jacques.
Bonjour Maryse.
Oui, bonjour docteur. Je souhaiterais savoir s'il peut y avoir une alternative à la pravastatine.
Alors d'abord, vous la prenez pourquoi la pravastatine ? Alors déjà, d'une manière générale, la pravastatine, c'est ce qu'on appelle une statine, et ce sont des médicaments qu'on donne pour réguler un petit peu le cholestérol, faire augmenter le bon cholestérol et faire diminuer le mauvais.
Oui, c'est ce que j'avais un peu compris. Mais disons que j'ai fait un diagnostic personnel, hein. Je l'ai arrêté.
Vous avez arrêté ?
Je l'ai arrêté toute seule comme une grande.
Pourquoi ça vous posait des soucis, Maryse ?
Parce que je me suis rendu compte que ça jouait sur mes ongles, qui peut paraître un détail.
Aïe, 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 Maryse, oh là ne faites là pas n'importe quoi, là, repris, sinon je vais finir vous frotter les oreilles. Hein.
Oh, j'ai repris, oh, ben c'est fait, le docteur me les a fait.
Mais vous prenez pourquoi la pravastatine ? Parce que vous avez trop de cholestérol ?
J'ai un petit peu de cholestérol, enfin je ne sais pas, moi je n'y connais rien.
Vous avez quel âge ?
73 ans.
Très bien. Vous n'avez jamais eu de problème cardiaque, vous n'êtes pas hypertendu, vous n'êtes pas diabétique.
Si, je suis sous traitement. Hein,
ouais, donc on est en prévention secondaire, donc là, il ne faut pas rigoler. Hein. Votre taux de cholestérol doit avoir des valeurs quand même qui sont maintenant très bien établies et très strictes, hein, aux alentours de 0,7. Hein. Faut pas rigoler avec ça. Hein.
Qu'est-ce qui vous gênait tant dans la pravastatine, Maryse ?
Eh ben, de ne plus avoir d'ongles.
Non, alors franchement,
je pense que c'est ça. Ça peut paraître un détail pour vous, mais je n'ai plus d'ongles.
Non, je pense pas que ce soit la pravastatine, Martine.
Et quand
Maryse,
vous l'avez arrêté ?
Sincèrement. Hein.
Ben, c'était peut-être dans ma tête, mais quand je l'ai arrêté, mes ongles avaient repoussé.
Parce que c'est pas un effet indésirable quand même qui est classiquement le principal effet indésirable, c'est les douleurs musculaires liées aux statines. Ouais. Maintenant, c'est toujours le même problème, si vous voulez. Il faut se poser la question d'une manière très générale et que les auditeurs écoutent un peu ce que je vais dire. Je vais parler d'or. C'est ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Mmh. Quel bénéfice j'attends d'un traitement par rapport au risque qui va m'apporter. Regardez par exemple un cancéreux, on va mettre une chimiothérapie avec des effets indésirables quand même qui sont costauds. Mais bon, à la fin du compte, il y a quand même l'espérance de pouvoir guérir. Pour la statine, c'est exactement le même problème. Si jamais vous arrêtez votre statine, vous allez boucher vos artères et vous risquez de faire un infarctus. Et là, ça va moins rigoler. Donc, maintenant, je ne suis pas convaincu à 100% que vos problèmes d'ongles soient liés à la statine. Allez voir un dermato, posez-lui la question. Et puis, il y a souvent sûrement une alternative pour pouvoir non pas remplacer la statine, mais une alternative pour pouvoir faire en sorte que vos ongles aient une meilleure tête et repoussent correctement.
Bon, disons que ça peut paraître banal, l'histoire des ongles, hein. Mais vraiment, je n'en ai plus. Donc, je ne peux plus coudre. Pour moi, c'est une catastrophe.
Ouais, non, franchement, c'est quand même un paquet d'années qu'on prescrit des statines. J'ai jamais vu ça. Hein.
Vous n'avez pas cherché une autre raison à cela ?
J'en ai parlé au médecin, bien sûr. Bon, je n'ai pas de réponse précise. Donc, faudrait que je voie un dermato.
Moi, j'irai voir un dermato hein, pour lui poser sérieusement la question. Hein.
D'accord. Bon, il suffit d'avoir un rendez-vous maintenant.
Ça, c'est notre problème.
Et oui, avec tous les spécialistes. Voilà, Maryse.
Bon, je vous remercie beaucoup et bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir. Du côté de Plombières-les-Bains. Muriel est avec nous. Bonjour, Muriel. Muriel ? Muriel, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis là.
Bonjour, Muriel.
Muriel, oui. Muriel de Toul, vous allez nous parler de polyarthrite, ma chère Muriel.
Alors moi, j'ai une polyarthrite depuis 1996. Bon, jusqu'à là, je n'avais pas de traitement parce que l'efferalgan, le brufen me la calmait. Et quand il a fallu faire une demande de 100%, la CPAM refusait, il fallait mettre en place un traitement. Donc Humira 40 et Méthode Jet 20.
Ouais.
Mais ce qui se passe, c'est que j'ai été voir un pneumologue pour un asthme passager et j'avais remarqué que quand je faisais ma piqûre de méthodjet le dimanche, j'avais du mal à respirer la nuit. Le pneumologue, il m'a dit, vous m'arrêtez le méthodjet. Alors le pneumologue, il m'a dit, vous l'arrêtez. Bon, j'ai été voir un ORL. Parce que moi, il m'est arrivé deux accidents. Vous savez, un petit morceau dans la trachée où ça a été retiré avec des pinces. Donc, la trachée est rétrécie. Après, l'ORL, il m'a mis l'Humira avec un point d'interrogation, pose problème. Donc, j'ai tout arrêté. Et ce que je ne comprends pas, c'est depuis que j'ai tout arrêté, je n'ai plus de douleur. Que quand j'avais le traitement, j'avais mal.
Bah, écoutez, c'est que... Alors, est-ce que déjà, la première question qu'on va se poser, est-ce bien une polyarthrite rhumatoïde?
Ah oui, parce qu'il m'avait fait une désentrimétrie...
Mais le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde ne se fait pas comme ça. Ça se fait sous un dosage d'auto-anticorps. Vous avez...
Il avait fait une prise de sang et le syndrome Goujon-Schrenz.
Ah, vous avez aussi un syndrome de Sjögren.
Voilà.
Eh ben, formidable. Alors, effectivement, le gold standard, c'est-à-dire le traitement number one de la polyarthrite rhumatoïde et du Sjögren, c'est le méthotrexate, c'est-à-dire le méthojecte. C'est un médicament qui coûte pas très cher, qui est un immunosuppresseur, qu'on prend une fois par semaine, qui est très efficace, mais qui a comme effet indésirable, qui peut provoquer ce qu'on appelle des PINS, des pneumopathies interstitielles non spécifiques, c'est-à-dire une atteinte du poumon. Mais attendez, la polyarthrite aussi peut atteindre le poumon. Oui, donc c'est pour ça que aller voir un pneumologue est une très bonne idée, faire un scanner aussi pour démêler le bon grain de l'ivraie. Pardon.
Le poumon n'est pas atteint, il m'a fait faire un scanner, tout est bon.
Alors, tout va bien.
Il y a des calcifications et tout, mais ce que je ne comprends pas, c'est depuis que le rhumatologue m'a fait arrêter le traitement...
Eh bien, je vais vous faire la réponse la plus simple, c'est de la médecine, madame. Voilà, c'est-à-dire que parfois...
Il n'y a pas d'explication.
Ah oui, mais alors lui, il sait pas, parce qu'il m'a dit arrêtez-le là, momentanément, le temps que j'ai...
Eh bien, bénissez le ciel.
Voilà.
Parce que là, après, avec les 100%, vous voyez, la sécus, s'il n'avait pas.
Ça, c'est un autre problème administratif, si vous voulez. Mais à partir du moment où, si vous arrêtez le traitement et que vous n'avez plus aucune douleur, alléluia.
C'est pas que j'en ai plus aucune, comme je disais à la personne du standard. J'ai les doigts, je vais les sentir un peu enflés. Bon, moi, je prends la méthode de ma maman, de l'eau tiède avec du gros sel, ça passe. Qu'avant, quand j'avais ce traitement-là, j'avais très très mal dans les doigts, j'avais des poussées, voilà, comme j'ai eu un thème au cœur le 2 février, Donc, il y a une prise de poids, je me suis ramassé 4 kilos, je ne sais pas si ça vient du traitement ou les deux associés, Alors, si le rhumatologue me propose de reprendre le traitement...
Ça serait complètement idiot, ça serait un peu irraisonnable. À partir du moment où on ne soigne pas on soigne pas une idée, on soigne un patient. Si vous n'avez pas de douleur, c'est totalement. Et si vos douleurs sont parfaitement stabilisées uniquement par du paracétamol, mais mon Dieu, restez au paracétamol.
Comment vous expliquez que quand j'avais le traitement, j'avais mal? Alors pourquoi?
Je vais vous faire une réponse de médecin. Je ne l'explique pas.
Alors moi, on m'a toujours dit que je venais d'une autre planète parce que j'ai des choses...
Vous venez de Vénus, comme toutes les femmes, allez.
Et je vais sur 65 ans, donc vous voyez, je suis pas...
Vous savez, parfois, il ne faut pas trop se poser de questions. Prenez ce qu'on vous donne et remerciez petit Jésus.
Donc je reprends que ma codéine, mon paracétamol, et puis voilà, je n'en prends pas...
Et puis vous surveillez bien la réapparition, effectivement, de douleurs articulaires qui peuvent vous embêter.
Voilà, ma chère Muriel.
Merci France Bleu, merci docteur, bonne journée à vous.
À très bientôt, sur France Bleu Lorraine. Toutes vos questions santé entre 9h et 10h ce matin avec notre médecin généraliste Jean-Jacques Epperstein au 03 83 36 20 20. 9h, 10h à votre service sur France Bleu, à votre service dans votre quotidien et dans votre santé. Ce matin avec nous, Jean-Jacques Epperstein. Je vais jamais réussir à le dire, Jean-Jacques.
Ouais, Jean-Jacques tout court,
je vais dire
bon.
Jean-Jacques.
Sinon, vous pouvez m'appeler Dr Gigi et Mr Love.
Ah, c'est bien. Ça fait très radio, très radio 90. Il est avec nous ce matin, notre médecin généraliste, donc Jean-Jacques, voilà. Vous posez toutes vos questions, 03 83 36 20 20, c'est ce qu'a fait Annie. Bonjour Annie de Neuchâteau.
Bonjour.
Alors Annie, si vous avez un haut-parleur, si vous avez la radio allumée, il faut l'éteindre, comme ça on vous entendra parfaitement.
Alors, j'ai un problème de marche, j'arrive plus à marcher. Je fais 50 mètres, je suis à bout, mais j'ai l'impression que mes jambes ne veulent plus avancer, ne veulent plus me porter. Je fais 50 mètres et puis je suis usée.
Oui, vous avez quel âge, Annie ?
82.
j'ai pas dit que c'était que ça. Maintenant, vous pesez combien ?
65 kilos.
Ouais, vous n'êtes pas non plus. Vous
non,
avez un, voilà, vous avez un indice de masse corporelle tout à fait correct. Quand vous dites que vous avez les muscles qui se tétanisent, c'est comme une douleur que vous avez dans les jambes?
Non, c'est comme si mes muscles étaient durs et qu'ils ne voulaient pas ouvrir.
Bon, alors, première chose à faire, c'est aller faire un Doppler.
Un Doppler.
Oui, parce que généralement, quand on a des difficultés à la marche, au bout d'une cinquantaine de mètres, avec l'impression d'avoir les muscles qui se tétanisent ou qui font mal, le premier diagnostic qu'il faut éliminer, c'est une artérite des membres inférieurs, c'est-à-dire une artère qui se bouche. Ça, c'est le premier truc à faire, aller voir votre généraliste et demander qu'il vous prescrive déjà qu'il vous examine pour voir si les poux passent. C'est-à-dire qu'on va examiner, il va passer ses mains sur les genoux, sur les pieds, il va tâter un peu toutes les artères pour voir si les poux passent. Et ensuite, il va vous envoyer faire un Doppler pour s'assurer qu'il n'y a pas une artère qui se bouche. Parce que ça se traite très bien, il n'y a pas, ça pas de problème. Maintenant, je vois que vous êtes aussi très essoufflé. Vous êtes essoufflé au bout de combien de mètres?
Les 50 mètres, j'ai resté faire.
Ouais, quand même.
Ouais, mais quand vous vous habillez le matin, vous n'êtes pas essoufflé?
Ben, il ne faut pas longtemps pour être essoufflé.
Ouais. Vous êtes suivi par votre généraliste?
Quand je sors de la douche, j'en peux plus.
Ouais. Est-ce que vous êtes suivi par votre généraliste?
Oui.
Régulièrement?
Oui.
Vous avez un traitement, quelque chose?
J'ai un peu de tension, donc j'ai un cachet pour la tension.
Vous allez voir le cardiologue aussi un peu?
J'en sors parce qu'ils m'ont mis un stent, mais tout va bien. J'ai été au contrôle il y a la semaine dernière, tout va bien.
Alors, dans ce cas-ci, au niveau cardiaque, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, vous avez probablement ce qu'on appelle un déconditionnement à l'effort. C'est-à-dire que, vous savez, les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent tous les jours. Et s'ils ne s'entraînent plus, la capacité à l'effort qu'ils ont pu acquérir, ils vont vite la perdre. Bon, nous, on n'est pas des sportifs de haut niveau. Donc, si jamais on n'arrive pas à faire tous les jours un peu d'exercice physique, dès lors qu'on commence un peu à stimuler la machine, on est vite essoufflé. Donc, il est peut-être, si jamais, au niveau cardiovasculaire, tout va bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous conseille, c'est un, aller faire un Doppler, parce qu'il faut marcher, c'est très important à votre âge, et marcher ensuite, à partir du moment où on a trouvé la cause de ce problème, qui, ça se trouve, n'est peut-être pas très grave, mais on va trouver une solution de manière à ce que vous puissiez marcher très correctement, marcher régulièrement, et vous allez voir que vous allez récupérer une capacité à l'effort.
Oui, j'ai 82 ans, mais je suis pas sédentaire. Hein.
Ah bah oui, non, mais il faut continuer, parce que c'est très passionnant. Ah, d'abord, 82 ans, c'est plus vieux.
Je vais voir des amis, je fais mon jardin.
Non, 82 ans, c'est plus un âge canonique. Hein. Ce sont des âges qui sont encore... c'est plus très jeune, mais c'est pas très vieux. Donc, il faut continuer à avoir vos activités physiques et surtout avoir une activité très régulière.
Voilà, ma chère Annie. Voilà, ma chère Annie. On reste là pour vous entre 9h et 10h au 03 83 36 20 20. Toutes vos questions santé, 03 83 36 20 20 sur France Bleu Lorraine. À votre service entre 9h et 10h sur France Bleu Lorraine. Ce matin, nous parlons santé avec notre médecin généraliste Jean-Jacques Herpch. Je vais pas y arriver, toujours pas. Donc, je vais rester sur Jean-Jacques, notre médecin généraliste qui répond à toutes nos questions santé ce matin sur France Bleu Lorraine. Claudine a composé le numéro de France Bleu Sud Lorraine. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Bonjour Claudine.
Vous appelez de Vendeuvre-les-Nancy. Je vous laisse poser votre question, Claudine.
Alors bon, je souhaitais revenir sur les statines parce que j'ai été traitée là pendant l'hiver avec des statines suite à l'avis du cardiologue. Mais bon, malheureusement, c'était pour moi revenir à une solution fauteuil. Enfin, pas revenir à une solution fauteuil. J'ai jamais été indirectement impacté par ça, mais c'est-à-dire que j'étais épuisée avec ce médicament, complètement épuisée, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, j'arrivais plus à marcher, et aucun tonus, enfin j'avais de moins en moins de tonus. Alors je souhaitais savoir s'il y avait une possibilité de remplacer ce médicament-là par autre chose, peut-être d'aussi efficace ou pratiquement aussi efficace.
Décidément, ce matin, la statine n'a pas
non,
vent
on
n'a
pas.
Non, mais de toute façon, les statines, ils n'ont pas très vent en poupe. Mais vous le prenez pourquoi là, votre statine, madame?
Eh bien, justement, à cause de
Vous avez ce qu'on appelle des comorbidités, diabète, hypertension.
Un petit peu de diabète, un peu d'hypertension.
Mais le problème c'est que, si vous ne prenez pas la statine, les études, elles sont formelles. Si vous ne traitez pas votre cholestérol d'une manière un peu agressive, un peu stricte, vos risques cardiovasculaires vont augmenter. Il y a un effet levier qui est quand même formidable, hein. C'est-à-dire que si vous faites baisser votre cholestérol de quelques points, vous diminuez vos risques cardiovasculaires d'une manière spectaculaire. Or, pour l'instant, on n'a rien inventé de mieux que les statines. Alors maintenant, il y a des statines. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs formes de statines qui existent. Hein. Il y a plusieurs marques. Donc, si jamais vous supportez pas celle-ci, vous pouvez éventuellement demander à votre médecin traitant de le changer. Maintenant, vous me parlez d'alternatives. Alors, oui, il y a des trucs. Il y a des machins homéopathiques, phytothérapeutiques qui font baisser le cholestérol. Manger, par exemple, si vous mangez des oméga-3, vous pouvez faire baisser 10%, de 5 à 10% de votre cholestérol.
Ça remplacera
bien sûr, mais ça remplacera jamais, si vous voulez, surtout si on a un objectif, par exemple, autour de 0,7. Là, vous êtes vraiment 0,7 de mauvais cholestérol. Si, ça, c'est bien pour faire un truc un peu d'appoint, mais on remplacera jamais la statine. Maintenant, après, vous êtes une grande fille. C'est-à-dire que chacun fait comme il veut. Si vous estimez que vous êtes trop enquiquiné par ce truc-là, mais que vous êtes prête à prendre le risque, arrêtez-le. Mais c'est vraiment une décision qui doit être mûrement réfléchie et même prise avec votre médecin. Maintenant, c'est quand même un médicament qui n'est pas là. Bon, je sais bien qu'il y a des effets indésirables, ça peut donner des troubles musculaires. Maintenant, il faut en changer. Il y en a d'autres.
Oui. Mais ça a été même assez rapide, hein, pour avoir des problèmes musculaires.
Ah, je dis pas que c'est pas rapide, mais disons que vous pouvez très bien changer de marque, hein.
Peut-être, voilà, voir avec votre médecin pour changer.
Oui, c'est ce que je vais faire.
Parce que vous avez des gens, si vous voulez, qui ont du cholestérol parce qu'ils mangent trop gras, c'est une chose, c'est un fait. Et puis vous avez des gens, c'est pas de bol, ils n'arrivent pas à éliminer le cholestérol. On a tous du cholestérol.
C'est quoi, c'est les gènes?
Ah, c'est les gènes, bien sûr. Vous avez vos hormones, vos cellules sont faites de graisse, de cholestérol, donc vous en avez besoin pour fonctionner. Maintenant, parfois, le corps n'arrive pas à l'éliminer. Donc vous le stockez et ça encrasse les artères.
J'ai déjà aussi connu un problème, justement, un médicament contre la tension, et j'étais complètement allergique aussi à ce médicament-là.
C'est pareil, vous avez des tas d'alternatives. Enfin, comme on disait entre nous avec Céline, si vous voulez changer un médicament pour la tension, bah, prenez un autre médicament contre la tension.
Oui.
Il en existe plein. La pharmacopée est très large. Et pour les statines, il y en a 4 ou 5 qui existent. Donc demandez à votre médecin de vous prescrire une autre statine alternative.
Voilà, ma chère Claudine.
Oui. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Passez une belle journée du côté de Vendeuvre-les-Nancy. Jacqueline est avec nous. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
À Blainville-sur-Lot.
Oui, bonjour messieurs dames. Bonjour docteur.
Bonjour Jacqueline.
Ce serait pour avoir... j'ai une cystite à répétition. Ça fait des mois et des mois que ça dure.
Ah, ça c'est embêtant.
Alors ça s'en va et ça revient à chaque fois. Puis ça me brûle. Et puis j'ai été voir un gynécologue. J'ai été voir ma médecin traitant. Et puis il ne me donne que ça. Et j'avais eu des...
Il vous donne que quoi?
Comment?
Il vous donne que quoi?
La
colpotrophine,
voilà, les ovules. En ovules et en crème. Et ça ne suffit pas.
Bah non, la colpotrophine, c'est fait pour les sécheresses vaginales.
Alors, c'est ça parce que ça me brûle sans arrêt.
Alors, attendez. Vous faites des cystites. Alors déjà, est-ce que vous vous traitez régulièrement?
Ça fait déjà un bout de temps, ça fait bien 2 ans, 3 ans que je le fais. Alors, de toute façon, j'ai rien d'autre. Il me donne rien que d'autre que ça.
Il y a un traitement plus profond?
Il y a des antibiotiques qu'on peut prendre. Il y a les traitements minutes, hein. Ce qu'on appelle la fameuse fosfomycine que toutes les nanas ont peu ou prou dans leur sac.
Aussi,
hein.
Parce que généralement. Une fois, c'est ça.
C'est ça, ça vous tombe sur le coin de l'œil. C'est le week-end de Pâques. On est coincé. Maintenant, si vous voulez, vous avez quel âge, Jacqueline?
80 ans, s'il vous plaît.
Alors, à 80 ans, l'attitude est un peu différente. Qu'à partir du moment où la cystite est relativement bien tolérée, on ne traite pas systématiquement. Maintenant, ce que je vous conseille fortement, c'est d'aller voir un urologue.
Oui, c'est bien dû à quelque chose.
Il faut aller voir un urologue. Il y a peut-être, vous avez peut-être ce qu'on appelle un prolapsus, c'est une descente d'organes qui irrite un peu quelque chose et qui provoque une infection à répétition. Allez voir un urologue.
Mais j'ai été voir la gynécologue avant-hier. Et puis elle
mais le gynéco, il n'est pas urologue.
Et oui, il ne regardera pas l'appareil urinaire.
Le gynéco,
urinaire.
C'est l'appareil génital. Oui. L'urologue, c'est tout ce qu'il pipille. Allez voir un urologue.
Il vaut mieux que j'aille voir un urologue alors que...
Vous êtes où, à Blainville? Écoutez, il y a des très bons urologues à Nancy. Et ils sont très faciles d'accès.
Je vous remercie beaucoup. Parce que ça, c'est pénible à traiter.
C'est insupportable.
Hein. Oui.
Ouais, autrement, vous ne pouvez pas donner quelque chose, vous, non?
Ah, non. Non, il faut prendre rendez-vous, ma chère Jacqueline.
Verboten.
Passez une belle journée du côté de Blainville.
Merci beaucoup.
Au revoir, Jacqueline.
À très bientôt sur France Bleu Lorraine. Ce mercredi matin, nous parlons santé, votre santé sur France Bleu. Vous nous appelez au 03 83 36 20 20. Raymond est avec nous de Vendeuvre-les-Nancy. Bonjour, Raymond.
Bonjour, madame.
Alors, allez-y, je vous laisse poser votre question à notre médecin Jean-Jacques.
C'est que voilà, j'ai un zona qui dure 15 mois.
Aïe, 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 aïe.
Alors, depuis 15 mois, vous avez un zona.
Ah non, non, ça peut, hein. Ça peut, c'est une catastrophe. Vous avez quel âge, Raymond ?
87 ans.
Ah bah oui,
on
alors
ce que,
justement, je comptais commencer par là. Le zona, c'est une deuxième varicelle. Alors bon, je vais vous expliquer en deux mots en quoi ça consiste. Quand vous faites la varicelle, quand vous êtes petite fille ou petit garçon, voilà, quand on fait la varicelle, le virus, il part pas. Il se cache.
D'accord.
Il reste planqué dans votre corps, dans ce qu'on appelle les ganglions géniculés.
Ok.
C'est beau la médecine.
Oui.
Et puis...
Mon fils en sort, hein, donc je maîtrise la varicelle.
Mais alors, bon, ensuite, plus tard, si vous avez une petite baisse d'état général, un coup de fatigue, bon, bah, eh ben, le virus, il ressort.
D'accord,
mais il ressort
sous
une autre forme en suivant le trajet d'un nerf, c'est-à-dire le nerf qui dépend de ce ganglion. Par exemple, celui qui est le plus fréquent, c'est le zona intercostal. C'est-à-dire que vous avez des petits boutons,
oui,
des boutons de varicelle, qui arrivent et qui suivent totalement le trajet d'un nerf.
D'accord.
Alors, on peut l'avoir sur le visage. Le pire, c'est le zona ophtalmique, hein, quand il attaque le nerf ophtalmique. Bon, c'est pas très grave.
C'est gênant.
Mais qu'est-ce que c'est pénible,
Raymond, ça vous pique, ça vous gratte, c'est quoi les symptômes?
Ça me fait des brûlures.
Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Hein. Vous avez encore des boutons?
Non, c'est des petites varices, ça fait comme des petites varices maintenant.
Ouais, non, parce que si vous voulez, alors, ce qu'on appelle les algies post-zostériennes, c'est un terme un peu savant qui dit simplement les douleurs post-zona, eh ben, ça peut vous enquiquiner la vie, mais sacrément vous enquiquiner la vie. Alors, il existe des traitements... Oh, bah, il existe des traitements. Il y a deux choses que votre médecin, éventuellement, vous pouvez lui en parler, mais peut-être qu'il l'a déjà fait. Il existe des patchs.
J'en ai eu.
Et ça n'a pas marché.
Ah.
Non, pas du
bon,
tout.
Bon, ensuite, on revient au traitement dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la pregabaline, qui est un neuroleptique de Lyrica, qu'on peut prendre à petite dose et qui peut soulager les douleurs aussi. Enfin, il existe des tas de traitements qui existent. Maintenant, Raymond, si vos douleurs sont trop importantes, il ne faut pas hésiter à demander à votre médecin de vous orienter vers un neurologue. Hein.
À ce point-là?
Ah oui, 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 oui. C'est... Non, mais c'est insupportable.
Vous,
vous avez vu un neurologue, oui?
Oui, il m'avait donné, il m'avait fait des pommades en pot,
mmh,
en pharmacie. J'en ai eu des trois pots, je ne vois pas la différence.
Ah.
Mmh. Et c'est affreux, tellement que ça fait mal. Hein.
Parce que... Essayez d'en parler avec votre médecin. Il existe des médicaments. Bon, attention, c'est pas du Doliprane. Hein.
Ouais,
c'est des choses comme très costauds. Hein, ce qu'on appelle donc des neuroleptiques qui peuvent très bien fonctionner sur les douleurs post-zostériennes, hein, post-zona. Mais parlez bien à votre médecin parce que c'est votre médecin qui vous connaît parfaitement bien et qui pourra décider de vous prescrire ou pas. Hein. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent.
Hein. Voilà, Raymond.
Oui. En tout cas, ça fait mal.
Alors maintenant, il existe un vaccin contre le zona qu'on préconise chez les personnes à partir de 65 ans, qui permet d'éviter
justement. Mais une fois qu'il est installé, c'est tout.
Ah ben, il faut le faire avant. Je veux dire faire un vaccin contre le zona quand même. Hein.
Bon ben voilà.
Il m'a dit qu'il y avait des vaccins maintenant, mais c'est trop tard. Maintenant.
Ah ben là, vous l'avez fait, hein, évidemment.
Oui. Hein. Bon ben Raymond, parlez-en avec votre médecin.
Dernier petit point, ce n'est pas du tout contagieux. Hein. Ne nous sortez pas le truc, ne viens pas parce que t'as le zona et tu vas me piler une varicelle. Ça n'a rien à voir. Hein.
D'accord. Bon, bah, c'est noté. Bon, Raymond, discutez-en encore avec votre médecin. D'autres traitements existent. On vous embrasse, Raymond.
D'accord. Merci.
Bon courage, Raymond. Hein.
Bon courage. À très bientôt. Bernard est avec nous. Bonjour, Bernard.
France Bleu.
Bonjour.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Dites-nous tout, Bernard.
Ben voilà, quand je marche, je perds l'équilibre. Je marche avec des bâtons et je perds l'équilibre. Pour m'arrêter, je freine avec mes bâtons ou un truc comme ça. Ou si je m'arrête, il faut que je me cale avec mes bâtons une seconde et puis...
Vous avez quel âge, Bernard? Je suis désolé, mais bon, c'est important de connaître.
Oui.
Vous avez quel âge?
J'ai 74.
Bien. Ouais, bon, vous êtes un gamin encore.
Un tout jeune homme.
Vous avez des problèmes de santé particuliers? Vous êtes suivi pour de l'hypertension, du diabète, ce genre de choses?
J'ai de l'hypertension et j'ai fait des malaises vagales les dernières, 5 malaises vagales.
Ouais, et votre tension est bien stabilisée? Elle n'est pas trop basse?
Ah oui, là, 13 un peu.
C'est parfait. Vous en avez parlé avec votre médecin traitant déjà de ces pertes d'équilibre.
Oui.
Il vous a fait un examen neurologique complet, il a regardé.
Il répond pas pour les pertes d'équilibre.
Alors, le problème, si vous voulez, c'est que quand on a des vertiges et des pertes d'équilibre, il y a quand même un bilan minimum à faire, qu'on préconise. C'est déjà aller faire une IRM cérébrale, pour s'assurer qu'il n'y a pas un petit truc qui comprime quelque chose là-dedans, notamment au niveau de la sphère ORL, premièrement. Deuxièmement, il me paraît aussi nécessaire de faire un Doppler des vaisseaux du cou. Ça, c'est important aussi, pour s'assurer qu'il n'y a pas un petit bouchon qui est en train d'empêcher le sang d'aller correctement au cerveau et qui peut provoquer ces vertiges. Et si ces examens sont strictement normaux, bah écoutez, il faut aller voir un ORL. Hein, parce qu'après, il y a des vertiges qui sont...
L'ORL, je l'ai vu. Hein.
Oui. Et
le cardiologue aussi. Mais le dernier médecin que j'ai vu en remplaçant, il m'a dit d'aller faire... un IRM.
Oui, c'est ce que je viens de vous dire, une IRM cérébrale. Et puis, vous avez fait un Doppler des vaisseaux du cou ? Vous avez fait un Doppler des vaisseaux du cou ?
Non.
Ça, faut faire aussi. Hein.
Voilà, il faut regarder.
Il faut les chercher. Alors maintenant,
faut regarder toute la mécanique.
Et Pierre Bernard, alors je vais vous donner une réponse de Normand qui va pas forcément vous plaire. C'est que parfois, tous les examens sont normaux et on n'a pas de solution. Donc, il y a des traitements qui existent contre les vertiges.
Voilà, mon cher Bernard. Suffit de faire tous les examens et après de voir les déductions de vos médecins. Bernard, à très bientôt du côté de Germinie, à très bientôt sur France Bleu Lorraine. Jusqu'à 10h sur France Bleu, toutes vos questions santé sur France Bleu Lorraine avec notre médecin généraliste Jean-Jacques Herbstein. Bon, c'était presque bon.
Allez. Bravo.
Monique est avec nous. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Bonjour Monique.
Vous nous appelez de Maxéville.
Bonjour monsieur, pas docteur, oui. Je viens de vous appeler pour vous appeler parce que j'ai été opérée deux fois d'une ostéite.
À quel endroit ?
Au pied droit, le pouce.
Et c'était venu de quoi ? Elle est venue de quoi cette ostéite ?
Oh, parce que j'avais forcé dans une chaussure.
Ouais.
Et puis mon pied s'est enflammé, enfin... Je sais pas, ça a donné.
Et c'était vraiment bien infecté?
Ah oui, 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 parce que le chirurgien.
Il a bien gratté, quoi.
M'a gratté et a réduit une phalange, quoi.
Donc il a quand même fait un bon gros travail, ouais.
Voilà.
C'est une ostéite, c'est quoi une inflammation?
C'est une inflammation, une infection des os.
D'accord.
C'est pas très bon, hein?
Oui.
Ben non, je me doute.
C'est pas terrible, terrible. Hein.
La première fois, ça s'est mal passé parce que ça coulait. Donc il m'a réopéré. Et là, bon, bah, ça va, c'est refermé. Mais ce qu'il y a, j'ai toujours des fourmis dans les pieds.
Alors, bon, maintenant, je ne suis pas sûr forcément qu'il y ait une relation de cause à effet. Hein, parce que, vous avez quel âge, Monique ?
72.
Ok. Il est possible que vos fourmis dans les pieds, ça peut être deux choses. C'est soit veineux, soit artériel. Donc, pour faire la part des choses, déjà, première chose, allez faire un Doppler. Allez faire un Doppler, Vous l'avez fait ?
C'est fait avant d'être opéré, tout est bien.
Et vous l'avez pas fait. Eh ben, faut peut-être, vous savez. C'est un Doppler, c'est comme une radio ou une prise de sang, c'est une photographie à un instant T. Oui. Après, les choses évoluent dans le temps. Donc, moi, je vous conseille de peut-être retourner faire un Doppler, voir un peu d'où viennent ces fourmis. Ça peut être simplement veineux, hein. Une petite varice qui vous enquiquine, genre de choses. Maintenant, ça peut être artériel, hein. Ça peut être aussi une artère qui se bouche. Dans le doute, retournez faire un Doppler. C'est un examen qui ne coûte pas très cher, qui est assez facile d'accès. Vous en parlez avec votre médecin traitant et ça me paraît comme de bonne aloi.
Voilà, ma chère Monique.
Le chirurgien m'a dit que ça venait d'un antibiotique, hein, le chir.
Oui, bon, attendez, le chirurgien, c'est le chirurgien. Moi, je pense qu'il faut... Je préconiserai quand même un petit Doppler.
Voilà, un petit Doppler pour Monique de Maxéville. Merci beaucoup, Monique, pour votre appel, Jean-Jacques. Eh bien voilà, ça y est, bientôt 10h, c'est terminé.
Déjà.
On vous retrouve prochainement, évidemment, sur France Bleu pour toutes les questions santé. À très bientôt, Jean-Jacques.
À très bientôt.
Merci, bientôt 10h. Et nous allons parler cuisine, et notamment de l'endive crue comme cuite. Elle nous ravit les papilles. On en parle dans quelques instants sur France Bleu.